Écoutez Accès Libre avec Benoît Racette.
Savez-vous que la majorité des personnes qui ont une déficience motrice ou un handicap moteur, ben si vous préférez, sont pas en fauteuil? Est-ce que vous savez aussi que des tonnes de mots, malaises, prothèses, troubles, autres problèmes d'arthrite ne se voient pas? Bon, évidemment, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, on les voit pas de toute façon, mais de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que des centaines de milliers de personnes vivent dans une case qu'on appelle le handicap invisible. Alors, on a décidé d'inviter deux personnes qui peuvent nous éclairer sur ce handicap invisible. D'abord avec nous, Daniel H. Lantaigne, directeur général de la Fondation Réa.
Bonjour.
Bonjour. Je veux juste rappeler aux gens qui ont peut-être entendu sonner votre nom là, dans l'actualité, que vous avez été interviewé dans le Journal de Montréal en septembre dernier parce que vous en aviez marre qu'on vous juge parce que votre handicap est invisible et que le stationnement vous était permis, même si on pensait que c'était pas le cas.
Tout à fait.
Bon, alors on vous resitue, tout va bien. Aussi parce que avoir une prothèse, bon, ça change la vie, mais ça vient avec pas mal de préjugés. On a Louis Bourassa, qui est directeur du programme des vainqueurs chez les amputés de guerre du Canada. Bonjour, Louis Bourassa.
Bonjour.
Bon, et là, je me permets un coming out. On est trois personnes avec des prothèses en studio. Vous ne l'avez pas vu, hein? Bon, ben, je vous l'apprends. Voilà. On commence avec Louis Bourassa. Je m'adresserai d'abord à vous, Louis Bourassa, des amputés de guerre. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par, disons, handicap invisible?
Bien, à partir du moment où on ne peut pas détecter à l'œil nu, que l'handicap est là,
ouais.
Je dirais que ça ferait partie de la grande famille des handicaps invisibles. Mais il y a beaucoup plus que ça, là, mais on pourrait, des fois, si l'handicap est visible, on pourrait même ajouter à l'œil nu avant qu'on entende la personne parler ou mm-hmm. des choses comme ça, ou avant qu'on interagisse avec la personne. Mais de prime abord, une personne comme ça, assise ou debout, qu'on ne peut pas déterminer s'il y a un handicap.
Bien, c'est le fun, on apprend que le handicap, ce n'est pas écrit dans le front. Là.
C'est bon. En plein ça.
Tout simplement. C'est quoi, Louis Bourassa, je vous pose la question d'emblée, c'est quoi les difficultés, de manière personnelle, là, auxquelles vous êtes confrontés?
En fait, c'est souvent dans les situations où il y a une pression sociale, exemple pénurie de stationnement mm-hmm. ou pénurie de salle de bain. Là, je ne parle même pas de stationnement pour personnes handicapées ou de salle de bain pour adapter pour les personnes handicapées ou d'espace dans le transport public. Je parle simplement qu'il y a une pression. Exemple, les wagons de métro sont bondés, les wagons de train, les autobus sont bondés. Alors, dès qu'on se dirige, nous, avec une prothèse pour prendre l'endroit qui est peut-être plus agréable pour s'asseoir avec un membre artificiel, on va être jugé par les gens qui ont pris une place. Et là, à un moment donné, la pression devient un petit peu plus grande. Je fais référence là, pour les stationnements pour personnes handicapées.
Oui.
Lorsqu'on va dans les centres d'achat, plus ou moins de problèmes. Mais si on va dans des situations où il y a déjà une pénurie de stationnement, mais là, à ce moment-là, les gens se demandent si on n'a pas créé nous-mêmes une falsification ou un marché noir de vignettes pour personnes handicapées. Alors là, il y a une pression sociale.
Oui. Mais on voit bien, en fait, c'est une histoire d'ailleurs qui a été... qui s'est présentée dans l'actualité. Je n'avais pas l'intention de l'aborder nécessairement tout de suite, mais je me tournerai quand même vers Daniel H. Lantaigne. On a lu votre cri du cœur dans le Journal de Montréal. Juste pour vous rappeler, c'est un article qu'on peut repérer sur Google, hein, je vous le dis comme ça. Un amputé souvent insulté pour sa vignette de stationnement. Donc, rappelez-nous un peu ce que vous avez constaté, ce que vous avez livré dans le cadre de cette entrevue-là.
Oui, mais tout ça s'inscrivait dans un fait d'actualité assez récent. Pour se mettre en contexte, il venait d'avoir une agression à arme blanche à la pharmacie dans Griffintown, suite, là, finalement, un gérant de pharmacie qui allait dire à la postière, écoute, c'est un espace nécessairement pour handicapés. Bref, tout ça a dégénéré. Mm. Et à un moment donné, je pense que on est rendu fou avec ces espaces-là. Et ça a parti de là, ça a parti d'une lettre ouverte. Finalement, le journal fait « on aimerait mieux vous rencontrer plutôt que d'y aller avec la lettre ouverte ». Et ce constat-là était que les gens... Ben, il n'y a plus de petites gênes hein, pour prendre les espaces de stationnement pour handicapés. Les questionnements puis les regards, il y en a toujours eu quand ça paraît pas. Puis ça fait partie, à certains moments, on pourrait se dire, ben, il faut dealer avec ça. Quand ça paraît pas notre handicap, ça se peut que les gens se posent des questions. Mm. En même temps, si on a une vignette, c'est parce qu'on a passé à travers un processus rigoureux.
Et qui n'est pas simple.
Qui n'est pas une loterie, c'est pas une place VIP, c'est une place parce que, bon, on en a besoin puis ça a été documenté. Mais là, on n'était plus juste rendu au questionnement, on est rendu finalement à cette forme de... Écoute, j'en ai juste pour 2 minutes. Ça sera pas long. Prends ton gaz égal, attends. T'as pas l'air si handicapé que ça, tu peux attendre. Et là, on est rendu dans cet argumentaire-là où on doit maintenant, en tout cas, je parle pour moi, je parle aussi par observation, les personnes handicapées doivent justifier le fait d'avoir un espace de stationnement pour handicapés et doivent commencer à expliquer leur handicap, mais c'est pas ce qu'on a à faire. On fait juste se rendre à un endroit X, se stationner pas trop loin de la porte parce qu'il y a un besoin. À partir de là, cette discussion-là est... Il n'y a même pas de justificatif et je ne rentre pas dans cette joute verbale-là avec les gens d'expliquer le pourquoi du comment. Écoutez, si vous désirez contester, vous pouvez appeler la SAAC puis revendiquer le processus, qu'il soit changé. Mais aujourd'hui, en ce moment, c'est la SAAC qui fait le processus. Ça doit être approuvé par un médecin et c'est pas donné de facto à qui en veut bien une vignette. Là.
Donc, c'est pas simple, il faut le dire, mais je pense qu'au travers de votre discussion, on voit deux tensions et deux tensions parfaitement légitimes. La première, une posture qu'on devrait avoir, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un, on n'est pas obligé d'y demander qu'il décline son diagnostic. Hein? Je sais pas si ça vous a déjà tenté, là, quand vous trouvez là, qu'une waitrice est un peu particulière, lui dire « Avez-vous un problème de santé mentale, madame? » En tout cas, je pense que ça ne fonctionne pas. Mais de l'autre côté, il y a eu toute une campagne qui était très salutaire. Justement, vous parliez là, de « Juste 2 minutes ». Il y a une vidéo qui a été vue plus 1 million de fois qui... demande que les gens respectent les places de stationnement. Et là, cette sensibilisation-là a tellement bien marché que les gens se comportent en police, au fond, et se sentent tout à fait légitimés de vous arrêter, vous, par exemple, qui a un handicap invisible, pour vous dire « Écoutez, là, vous êtes dans l'erreur. » Comment on réussit à réconcilier ces deux postures-là? Comment on arrive à être civilisé tout en étant gardien des places de stationnement? Qu'est-ce qu'on fait?
Bien, je parle par expérience personnelle. Lorsqu'on m'indique que je suis stationné dans un endroit pour personnes handicapées, bien, je remercie la personne de me le mentionner. Puis, généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Mm-hmm. Je dirais que les problèmes vécus personnellement, c'est lorsqu'il y a déjà pénurie de stationnement.
Oui.
Les gens qui s'en vont travailler, qui prennent le stationnement incitatif, qui a déjà une pénurie de stationnement, il y a une frustration qui se crée à tous les matins qui varie entre 3 et 10 minutes pour se trouver un endroit de stationnement. Puis là, ils voient moi ou Daniel arriver, puis là, il y a de la neige, on décide qu'on va prendre le stationnement personne handicapée, on met notre vignette et on sort. À un moment donné, pour eux, c'est comme juste, c'est juste trop, là.
Ouais.
Alors, ça leur permet pas nécessairement de passer des jugements aussi simples que ça, là, puis aussi dégradants que ça dans certains cas. Mais en même temps, je pense que la problématique est des deux côtés, là. Il faut bien comprendre que je ne me souviens pas d'avoir vécu cette situation-là de jugement rapide dans des stationnements dans le 450 où là, il y en a du stationnement. Ils veulent l'argent des personnes handicapées.
Mais ça veut dire qu'il faut faire des Laval et des Longueuil à la grandeur du Québec? Parce que là, je cherche une solution avec vous.
Surtout que je ne suis pas pro ça nécessairement. Mais en fait, moi, je pense qu'une des tribunes que l'on a présentement d'expliquer ça puis de voir le sourire qui se dégage en arrêt de l'entrevue, c'est ça qui m'impressionne le plus, moi, dans le... Écoutez, là, on va se parler de ça, puis ça ne me dérange pas qu'on parle de ma jambe artificielle, de ma jambe coupée ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Mais en même temps, on peut-tu continuer à vivre sans se faire juger parce qu'on a... Ils voient ça comme un privilège, là, ça. Moi, je changerais facilement ma vignette et ma prothèse contre pas de vignette et pas de prothèse.
Oui, voilà.
Mais sans tomber dans le « je fais pitié », c'est simplement pour dire « j'ai une vignette, il y a des raisons, il y a un processus à passer par là, il y a des professionnels de la santé qui se sont prononcés pour qu'on ait cette vignette-là. » Mais en même temps, il y a aussi les gens qui ont trouvé le moyen de court-circuiter le système avec des imprimantes couleurs ou enfin bref, qui se photocopient leur propre vignette de stationnement.
C'est important ça ou c'est marginal?
C'est marginal, sauf que les personnes qui le voient que c'est fraude, moi je pense que là, il y a l'effet boule de neige. Que la personne le fait, je crois sincèrement que c'est marginal, mais les personnes qui remarquent ça, là, à un moment donné, c'est irritant.
Ça crée de plus en plus de petits justiciers, là, finalement, qui veulent bien valider que la vignette est bien appropriée. Puis effectivement, cette problématique-là, je la vois surtout vraiment au... pas tant quand je me stationne et je me fais poser la question, ça arrive, mais bon, ça reste encore marginal. Ce bout-là, c'est vraiment plus quand j'arrive, je vois que l'espace de stationnement est occupé par une personne qui n'a pas de vignette. Là, je lui fais un petit signe, je monte ma vignette et là, je me fais dire de patienter. Et c'est là je dis, bien, vous ne le feriez pas devant une bonne fontaine, vous ne le feriez pas dans un arrêt d'autobus, mais vous êtes complètement à l'aise de prendre la place d'une personne handicapée. Alors, si je mets ça dans votre échelle de priorité puis de valeur, il y a quelque chose pour moi qui ne marche pas. Et c'est là, je pense qu'il doit y avoir ce rappel-là, ce dialogue-là pour bien repositionner, que c'est pas un espace, c'est pas écrit zone de débarcadère ou juste pour 2 minutes. Parce qu'effectivement, ça met des personnes dépendamment du handicap, mais beaucoup plus vulnérables. On l'a vu dans des vidéos, justement, la personne en fauteuil roulant qui se stationne plus loin, ben, elle n'est plus à visibilité des rétroviseurs, des voitures qui reculent en stationnement, et ça la rend vulnérable. Et c'est vraiment de rappeler ce propos-là, puis de faire, ben, écoutez, non, vous ne pouvez pas juste le prendre pour deux minutes.
Donc, en fin de compte, il ne s'agit pas d'oublier cette campagne de sensibilisation-là. On la rappelle, mais on reste sensible à des arguments... disons rationnel, là, on explique qu'il y a un processus, qu'il y a des besoins. Sauf qu'est-ce que, je vous pose la question à vous, Louis Bourassa, ou à vous, Daniel Lachelantaigne, est-ce qu'on n'est pas tanné de toujours être celui qui explique? Est-ce que c'est possible d'être une personne qui a un handicap invisible, par exemple, qui n'est pas toujours un peu en train d'expliquer là, ce qui s'est passé sur sa vie très profonde, etc.?
Je pense qu'on a le droit d'être tanné, mais en même temps, il ne faut pas se fermer les yeux. On va toujours rester en situation de handicap. Alors, ça fait partie de ma vie de témoigner ça, là. Mais je pense qu'il y a aussi un effort de groupe qui peut être fait. Mmh. Moi, là, je ne sais pas si c'est moi, là, mais les endroits où je me fais le plus justifier ou regarder ou sur le fait que quelqu'un a pris la place de stationnement pour personnes handicapées, c'est toujours un endroit où ça ne prend pas beaucoup de temps. Le guichet automatique, pour ne pas le nommer, là, c'est la place là, que tu... Ben, moi, je pense qu'il y a aussi les gens
c'est
qui travaillent...
Parloir, le guichet automatique.
C'est ça. les gens qui travaillent à la banque, à la caisse, qui doivent aussi être vigilants. Ouais. C'est pas juste l'affaire des gens qui conduisent une voiture qui stationne. Je pense que c'est un effort de groupe, mais en même temps, tu sais, ma jambe ne repoussera pas, là. Mm-hmm. Ça fait partie de ma vie. Je me suis peut-être donné cette mission-là quelque part sans m'en rendre compte que je vais devoir témoigner puis expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est une différence. Mm-hmm. Mais en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une certaine quantité de population qui ont pris le raccourci rapidement puis « Ouais, mais t'en as pas besoin. » Tu sais, cette espèce de jugement facile-là, là, mm-hmm. qui était comme une shortcut avec la réalité d'être amputé et non amputé, là.
Bien, c'est sûr que ça a à voir aussi avec le contexte général. Quand on rend les programmes sociaux de plus en plus rares, puis qu'on fait payer davantage pour les avoir, ben les gens se disent « Ah oh, ben là, pourquoi vous auriez des services? Hein? »
Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de très vicieux dans cette façon de voir que, comme si, parce qu'on est handicapé, il y a une catégorie de personnes qui croient que nous, tout nous est dû.
Oui, voilà. Bon, je vous poserai la question, en fait, on parle souvent du milieu de travail. On quitte le stationnement, si vous permettez. Je vous poserai la question, Louis Bourassa, des amputés de guerre. Les personnes handicapées, est-ce qu'elles doivent faire part de leur handicap même invisible à leurs collègues de travail, par exemple, dans leur milieu, disons, tous les jours?
C'est un débat qui fait rage, disons, depuis plusieurs années. Nous, l'Association des amputés de guerre, notre position est assez claire là-dessus. C'est à la personne de décider si elle veut le faire ou pas. Ça revient à un choix personnel. Par contre, il faut être lucide aussi. Dans certains emplois, si on omet volontairement de parler de notre situation de handicap, il y a tout un côté là, assurance puis l'employeur. Mm-hmm. Vous savez, lorsqu'on on applique pour des endroits comme pour être douanier, comme pour être policier, pour être pompier, il y a des raisons pourquoi ils ont une demande spécifique face à une différence physique. Mm-hmm. Alors, si on se permet, disons, de mentir, parce que je suis capable de me tenir debout pendant 4 heures de temps, disons, mais à ce moment-là, lorsque l'employeur va découvrir que j'ai une jambe coupée, je ne suis pas convaincu que, nécessairement, je ne suis pas dans le tort de ne pas avoir dit qu'est-ce que j'avais de différent.
Mm. Bien, on sent en tout cas qu'il faut être conscient de ce que ça implique. Il y a quand même des droits qui nous protègent, mais comme vous le dites, les droits s'arrêtent là où la fonction et le travail exigent qu'on ait une jambe en entier. C'est un peu bad, mais c'est ça. Je m'arrêterai deux instants sur ce que vous faites, parce que vous êtes évidemment aux amputés de guerre, mais vous êtes aussi directeur du programme Les Vainqueurs. Qu'est-ce que c'est en quelques mots?
En fait, le programme Les Vainqueurs, c'est le nom que l'on donne aux enfants amputés. On ne les appelle plus les enfants amputés. Chez nous, on les appelle les vainqueurs. Mm-hmm. On essaie de tourner ça vers le positif. C'est ce qui reste, ce qui compte et non ce qui manque. Mm-hmm. Alors, l'association va apporter un soutien financier et un soutien moral à tous ces enfants-là et à leurs familles pour que plus tard, ils deviennent pleinement autonomes et qu'ils mènent une vie pleine et entière. Mm-hmm. Donc, eux, ils vont être fonctionnels et puis ils vont pouvoir travailler, puis ils ne seront pas nécessairement à attendre le fait de ne pas travailler. Ils vont simplement travailler à temps plein.
Bien. Donc, on redirige les gens vers le programme Les Vainqueurs. Ça sera sur notre page. Louis Bourassa... Daniel Lantaigne, vous dirigez une fondation qui soutient 3 centres de réadaptation.
Exactement.
Vous avez vécu la réadaptation vous-même.
J'ai vécu le programme Les Vainqueurs aussi.
En plus!
Je suis un doyen du programme Les Vainqueurs. Donc, bon, je suis un exemple que, oui, on retourne dans une vie active et qu'on bénéficie de ce soutien financier et moral là, tout au long de notre vie. Puis même rendu à 31 ans, je pense que j'en bénéficie encore aujourd'hui. Là.
Donc, une belle suite dans les idées et les rencontres. Brièvement, dites-nous ce que vous faites exactement pour les centres de réadaptation.
Oui, donc, bon, avec la loi 10, la création des CIS et des CIUS à Montréal, c'est créer une grande réorganisation. Mm-hmm. Les centres de réadaptation, le CIBRUNO, l'Institut de réadaptation Jean-Grenzy de Montréal et l'Institut Raymond Devoir, que vous connaissez peut-être un peu plus ici, avec, mm-hmm. surtout avec notre programme de surdicité, avec l'Institut Nazareth-Louis Braille. Alors, donc, ces trois centres-là sont maintenant unis ensemble et il y avait chacun leur fondation. Donc, ça devenait pertinent aussi de refaire le même exercice de fusion. Donc, on a créé REA, tout simplement, comme dans réadaptation. Et notre objectif, bien évidemment, est d'apporter de l'argent neuf pour contribuer davantage à la réadaptation physique, mm-hmm. que ce soit cliniquement, en recherche, ou après ça, même en soins et en aide à la vie courante là, aux gens qui en ont le plus besoin. Donc vraiment, on a créé cette nouvelle fondation-là qui est lancée depuis un petit moment déjà.
Et donc, vous avez en fait profité des services en réadaptation, vous redonnez un peu. Vous, en gros, ce que vous faites, c'est vous aider à amasser des fonds pour qu'il y ait des activités précises.
Donc, nous, on fait des activités de levée de fonds, on fait la collecte de fonds à l'année longue, évidemment. Et puis, nous, on injecte cet nouvel argent-là. Et puis, moi, je ne l'ai pas caché à mon employeur que j'étais amputé parce que être directeur général d'une fondation en réadaptation peut être amputé. Il y avait un lien assez intelligent entre les deux.
Moi, j'aurais recommandé de le mettre dans la lettre de motivation.
C'est ce que vous avez fait, c'est ça? Puis, j'ai fait ma réadaptation à l'Institut de réadaptation.
Ah, bon, bien. Écoutez, je suis content qu'on ait fait le tour ensemble. C'est sûr que la question du handicap invisible est très large. On en a profité aujourd'hui pour parler de quelque chose qui se voit un peu moins, mais qui affecte la mobilité. Je veux juste vous rassurer, là, on va mettre les liens de vos organisations respectives. Les gens pourront continuer à discuter et à comprendre un peu mieux ce phénomène-là. Alors, je vous représente, par exemple, pour qu'on entende bien, Daniel H. Nantaigne, directeur général de la Fondation REA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Et Louis Bourassa, directeur du programme Les Vainqueurs chez les Amputés de guerre du Canada. Merci beaucoup.
Merci.